Et nous vous diffusons donc la conférence Démystifions le RGPD faite au Capitole du Libre en 2017 avec Benjamin Bénifet.
Malheureusement, cette loi quand même montre ses limites, et ainsi que donc sa directive européenne qui en découle, tout simplement parce que entre-temps, on va faire des est arrivé Internet, on va faire des achats sur Internet, puis on va commencer à avoir une industrie qui va arriver, qui va être l'industrie de la publicité. Donc on va commencer à récolter les informations, à faire du profilage sur les gens, et qui plus est, ce sont des entités qui ne sont pas soumises aux lois européennes, puisque bien souvent, elles sont placées en dehors de l'Europe, du moins pour les plus grands acteurs de ce côté-là. Et aussi, en 2001, on a un triste événement, le 11 septembre, non, on peut croire hein, qu'on parle que de Toulouse, hein, mais qui va instaurer pas mal de lois qui attendaient sur une étagère un événement triste, grave, mais oh, ça tombe bien, j'ai une loi antiterroriste, et là-dessus, on va retirer à la CNIL le droit de sévir sur et de censurer en fait les fichiers de l'État. À tel point que, ben, il y avait, je crois, à l'époque, il y avait quelque chose comme 70 fichiers illégaux de police. Tout d'un coup, ils sont devenus légaux, puisque la CNIL n'avait plus le droit de rien dire dessus. Parallèlement, en 2003, la Californie instaure, en fait, une nouvelle obligation. C'est une loi qui, en fait, oblige les entreprises qui entreposent des données personnelles sur des individus de prévenir ces individus si ces données ont fuité à cause d'un piratage, d'une malveillance, ou tout simplement, ben... d'un administrateur système qui aurait mieux fait quand même de faire son boulot. Cette loi va être transposée au fur et à mesure dans différents États des États-Unis. Même Barack Obama va faire un discours, d'ailleurs, si je me trompe, devant le Congrès, en 2015. Ça va devenir en fait une loi fédérale. Il faut savoir que cette loi, en fait, va aussi inspirer le législateur européen. Il se trouve qu'en 2002, en Europe, on avait une directive e-privacy, sur donc la gestion de la vie privée dans le domaine sur Internet. Et c'est la révision de 2009 de cette e-privacy qui va justement apporter plus ou moins le concept de obligation d'informer en cas de fuite d'une donnée personnelle. Mince.
Oui, c'est vrai. Il y a peut-être un petit souci là.
Oh mince. Vous savez ce qu'elle introduit aussi, la directive de 2009 ? Elle introduit bien évidemment le grand bandeau que là on va vous mettre de suite. En poursuivant l'écoute de cette conférence, vous acceptez nos CGV et l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés au centre d'intérêt qui vous permettent l'utilisation des boutons de partage sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres, demandez Simon sur la mailing list Orga at Capitole du Libre. C'est fait. 2012. On a un dépoussiérage qui est fait à l'initiative d'un groupe constitué aussi bien des écologistes allemands et aussi d'une élue du Parti Pirate, auprès du Parlement européen pour revoir justement et unifier l'ensemble de ces directives, puisque les directives ne sont pas toutes uniformes, pas toutes transposées sur le domaine national.
Les lois des États membres de l'Union européenne sont plutôt disparates, et donc le législateur européen s'est dit qu'il fallait peut-être harmoniser tout cela. C'est pour ça qu'on a commencé à parler dès 2012 d'une nouvelle norme en matière de protection de la vie privée des citoyens européens, et le règlement général est ce qui a abouti. Donc personnellement, j'ai lu 4 ou 5 versions. Deskrich va vous dire pourquoi ça s'est précipité vers la fin, pourquoi tous les députés européens et les instances européennes se sont dépêchés de...
Je vais même pas vous le dire, je vais vous dire, il y a un excellent documentaire qui est passé sur Arte, qui a suivi l'écriture de cette loi, où on voit les représentants des partis populaires, donc des partis de droite, le rapporteur qui est face à une immense pile de papier, et donc député parti de droite qui lui dit, écoutez, vous voyez tout ça, ça c'est tous nos amendements, vous le jetez là, parce qu'après ce qu'il vient de nous dire Snowden avant-hier. Donc cela va permettre en fait une mise à jour réelle de l'ensemble des pratiques sur la gestion de la vie privée. Cela va aussi limiter les tentatives de contrôle voulues par certains gouvernants des États européens, je ne pense pas que de la France, mais par exemple aussi de la Pologne, de la République tchèque, de l'Angleterre. Oui, ils font encore partie de l'Europe. Bref, this is RGPD.
Ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'avant, on avait une directive européenne en matière de protection des données. La directive doit être transposée, c'est-à-dire le droit national doit s'adapter. Là, le règlement est d'application uniforme sur tout l'espace de l'Union européenne. Et les États ont une marge de manœuvre très réduite pour adapter leur droit national à ce règlement et à ses principes.
même si elle existe, hein, si vous lisez, elle existe. Bon, on va rester quand même sur le terme RGPD, ce sera plus simple pour nous tous. Mais le grand défi, ça va être, dès maintenant, en fait, on est en plein dedans, et la plupart des gens ne s'en aperçoivent absolument pas, le grand défi, ça va être de se préparer à ce qu'elle soit appliquée. Et pour cela, donc, Paul-Olivier Gilbert, qui est le président de l'association, en fait, c'est une asso qui regroupe les CIL de France, donc les correspondants informatique et liberté, il a dit à ce sujet, pas mal d'opportunistes incompétents proposent de l'accompagnement RGPD. Pourquoi ?
Pourquoi pas nous ?